Et si tout le monde était bien logé? Parce qu'avoir un toit est essentiel. Une émission en partenariat avec Alila, présentée par Sylvain Lévy-Valency.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette tribune. Et si tout le monde était bien logé? Et oui, et si tout le monde était bien logé? Dans l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous savez, il y a un droit inaliénable à l'éducation. On doit tous être finalement, on va pas dire égaux forcément sur le plan pratique, mais en tout cas une égalité, une équité entre toutes et tous. Et le logement, c'est un des marqueurs sociaux les plus importants. Et vous le savez, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, il était temps, puisque de mémoire, dans des campagnes électorales, on a rarement vu finalement une vraie politique du logement déclinée dans un programme, que ce soit à l'occasion des élections présidentielles ou à l'occasion, par exemple, d'élections législatives, mais aussi au niveau des communes. Quoique, finalement, quand on y réfléchit, les maires de ville sont certainement les plus à même aujourd'hui de traiter ces éléments du logement. Vous le savez, j'en parle souvent à la fois à la télévision et aussi à la radio. On a une passion ici, dans notre groupe, pour les maires, parce que c'est, nous considérons et on sait que c'est eux qui sont aujourd'hui aux affaires, au quotidien, avec les administrés. Donc on va essayer aussi un peu de casser les codes et de leur donner plus largement la parole. C'est ce qu'on a souhaité faire avec notre partenaire Alila, avec cette thématique « Et si tout le monde était bien logé ?» C'est presque une incantation. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette collection, on la veut offensive, on la veut créant du débat, créant aussi de l'innovation, des idées, puisque toute critique doit s'accompagner nécessairement de solutions construites, positive, dans le sens où chacun, avec cette urbanité, les villes, on doit être aujourd'hui les plus harmonieux possibles. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet, on est ensemble pendant une bonne quarantaine de minutes, on va parler du pouvoir d'achat. Voilà, le pouvoir d'achat, vous en entendez parler tous les jours, c'est presque une incantation pour tous les programmes et on a une surenchère, à la fois dans les programmes avec l'augmentation des revenus, avec effectivement la baisse parfois des charges. On a vu aussi exploser les coûts de l'énergie. On a vu aujourd'hui des personnes dont le reste à vivre est de plus en plus réduit. On voit que les budgets consacrés au logement sont importants. On vous donnera des chiffres très précis. Ils sont assez éloquents, parfois terrifiants. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est dans le cœur du sujet. On a voulu donc créer ce débat en partenariat avec notre partenaire Alila, qui est un promoteur très engagé dans la cité. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, pour en parler, il sera à mes côtés pour animer aussi cette première tribune. Christophe Blinz est avec nous. Bonjour Christophe.
Bonjour. Bonjour à tous.
Alors Christophe, vous êtes aujourd'hui le directeur des relations institutionnelles du groupe Alila. Merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de la recevoir sur le plateau. Ce sont des élus comme on les aime. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié cette façon de parler franc. En tout cas, une chose est sûre, c'est d'être très clair dans son sujet. J'ai le plaisir d'accueillir la maire de Beson. Elle est présidente d'AB Habitat, Nesrine Menawara.
Merci Sylvain. Bonjour à toutes et à tous.
Comment ça va Nesrine?
Ça va très bien. C'est toujours un plaisir de venir vous rencontrer, échanger avec vous. Merci pour l'invitation à nouveau.
Merci. On est ravis d'être avec vous. Un maire qu'on connaît bien aussi et qui maîtrise parfaitement aussi son sujet. Il est le maire de Montereau, vice-président de la région Île-de-France et il est référent à la commission logement de l'association des maires d'Île-de-France. James Chéron est avec nous.
Bonjour.
Bonjour James, comment allez-vous?
Alors moi je vais bien, mieux que le logement dans notre pays, ça tombe bien parce qu'on va en parler.
Absolument, c'est bien le sujet du jour. Il œuvre au quotidien pour essayer de loger ceux qui travaillent, pour essayer de réduire ces problématiques qui est parfois délétère. C'est de s'éloigner de l'emploi lorsqu'on est logé, c'est compliqué, c'est pas évident, c'est une action au quotidien. Et pour cause, il anime une région qui est la plus importante de France, forcément, puisqu'elle regroupe 1/5 de la population française. C'est dire qu'il a beaucoup de choses à partager avec nous. Olivier Bajard, directeur Action Logement Service Île-de-France, est avec nous. Bonjour Olivier.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va?
Très bien. Très bien, et puis je suis ravi qu'on puisse parler de ce sujet qui est le logement des salariés en Île-de-France, qui est une vraie problématique de fond, qu'on a déjà pu partager avec un certain nombre des invités.
Et il faut en parler, et d'ailleurs le pari que nous faisons effectivement, et l'engagement que nous faisons aux côtés de Christophe et de l'ensemble du groupe Alila et de son président Hervé Le Gros, c'est de susciter finalement ce débat. C'est quelqu'un aussi qu'on connaît bien chez Radio Immo. Il a été aussi l'un de nos premiers soutiens dans notre média qui a fêté ses 6 années. Il a toujours été présent sans faille à nos côtés. C'est quelqu'un dont on connaît la qualité et l'excellence professionnelle. Il est le directeur général de Haute-Seine Habitat et président de la ORIF dont on parlera tout à l'heure. C'est Damien Van Overschelde.
Bonjour Sylvain, bonjour à tous et merci de votre invitation.
Merci Damien, ça nous fait plaisir de vous voir sur le plateau puisque le paradoxe fait que ça fait quelques années qu'on se suit, mais vous n'étiez pas encore venu dans nos studios.
Pas encore, dans ces beaux locaux magnifiques où vous nous accueillez ce matin. Oui.
Et d'ailleurs, on inaugure un peu ces nouveaux studios où on sera à même, les amis, de vous proposer bien évidemment de la programmation, partager, liker, toujours avec beaucoup de positif, parce que positif, c'est pas une incantation, c'est aussi une façon de voir la vie. Donc merci en tout cas. Pouvoir d'achat signifie en économie, pour un petit peu d'économie, la capacité d'achat en termes de biens et de services marchands d'une quantité donnée de monnaie. Bon, on a bûché la notice hein, quand même. Pour un ménage, le pouvoir d'achat mesure donc sa capacité à consommer grâce à son revenu disponible. C'est un sujet épineux qui n'est pas sans rappeler l'épisode dramatique et tragique qui a démarré avec la hausse des prix du carburant. Vous avez compris, je parle des gilets jaunes. Ça régit notre quotidien. Le pouvoir d'achat, c'est un peu la dent creuse. C'est la préoccupation première et la source de stress premier des Français, avec des revenus dont le pouvoir d'achat ne cesse de se dégrader. Il suffit de regarder sa facture de gaz, d'électricité, vous le savez, le prix du litre d'essence pour s'apercevoir que les prix augmentent. Pour certains d'entre vous, vous le remarquez de façon quasiment indécente. On peut vous comprendre. Alors dans ce contexte, qu'en est-il du logement ? Encore une fois, premier marqueur social. C'est l'objet de ce débat. Et donc, on va tâcher, avec nos amis que je viens de présenter, d'essayer de définir un petit peu pourquoi, et c'est la question que je vais poser en particulier aux élus, pourquoi, lorsqu'on est en politique, cette politique du logement n'a pas trouvé, on va dire, son creuset. Dans le cadre peut-être d'un grand ministère, dans le cadre de quelque chose qui peut-être, pourquoi pas, imaginer un grand ministère d'État, je ne sais pas. Il y en a combien ? Il y en a 4 aujourd'hui, je crois. 4 ou 5 ministères d'État, peut-être, etc. Peut-être, éventuellement, je donne des pistes, la possibilité d'avoir, par exemple, une loi de programmation qui sanctuariserait une politique dans le temps, puisqu'on le sait, construire est une temporalité différente. Être bien logé selon son milieu social peut revêtir des réalités différentes. Moi, j'ai envie de vous poser cette première question qui est un peu générale, mais on va entrer dans le sujet. Et je vais commencer par vous, Christophe, puisque vous êtes mon expert du jour. En France, en 2022, qu'est-ce que ça veut dire être bien logé ?
Alors, si on parle du logement et du pouvoir d'achat, c'est quand même une problématique qui concerne la majorité aujourd'hui des Français, et notamment voilà, les familles modestes, aujourd'hui des classes moyennes, notamment dans les grandes villes. Être bien logé, ça veut dire avoir un logement qui correspond à ses besoins, avoir un logement qui correspond à ses revenus. Soit, parce que si on a un logement trop petit, si on a un logement trop cher, le logement ne correspond pas à son bien-être. Et depuis plusieurs années, on ne construit pas assez de logements. Il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Les besoins augmentent, les ménages modestes, les classes moyennes notamment, ont besoin de logements à prix abordable ou à loyer abordable. On sait très bien, dans les grandes villes, la hausse des prix de l'immobilier, on pourra en parler dans un second temps, mais cette hausse des prix de l'immobilier a fait que beaucoup de ménages se sont écartés de l'accession à la propriété, sont locataires avec des postes de dépenses logement qui ont largement augmenté, explosé dans leurs dépenses globales. Donc, les ménages modestes aujourd'hui et les classes moyennes sont relativement rejetés dans les grandes villes et dans les grandes métropoles parce que les prix ont trop augmenté. Donc il y a aujourd'hui urgence à continuer à construire des logements pour ces familles modestes, pour les classes moyennes, pour les jeunes, il ne faut pas l'oublier, pour les étudiants également dans les grandes agglomérations, c'est important. Et il y a aussi une urgence, c'est-à-dire qu'à force de construire moins que ce qu'on devrait, on continue à créer en fait des déficits et des postes de dépenses qui augmentent beaucoup trop chez les ménages.
Merci Christophe. Ça pose le décor très clairement, hein, Nesrine Menawa. On voit bien hein, que les classes moyennes s'éloignent de plus en plus des centres urbains parce qu'ils n'arrivent plus à se loger décemment. Et que le phénomène de gentrification est un phénomène sociologique qu'on pourrait qualifier presque d'irréversible si on tient compte en fait de l'antériorité de ce phénomène. On peut comprendre que les classes veulent se regrouper par nature, c'est un phénomène séculaire hein, dans les sociétés modernes. Mais il y a un vrai sujet là-dessus. Quel est votre avis et quelle est votre réaction face à ce que nous dit Christophe? Et pour vous, c'est quoi être bien logé en France en 2022?
Moi, je pense que la question du logement tel quel, elle n'est pas toujours bien prise en compte dans les esprits de tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a que les maires, ou en tout cas, je me suis rendu compte que cette question-là était vraiment prise en compte que par les maires, parce que c'est les premiers élus de terrain et de proximité qui sont confrontés tout simplement au nombre de demandeurs de logement. Moi, par exemple, sur ma ville, j'ai 10 000 demandeurs de logement, 8 000 sont extérieurs du territoire, plus de 2 000... besonnés qui sont issus de la ville. Et c'est vrai que en dehors du maire, en fait, qui le sait? Personne ne le sait.
Sur une population
de presque 35 000 habitants.
35 000 habitants, vous avez 10 000 demandes de logement.
Oui. Alors, 8 000 extérieurs, mais beaucoup de villes sont dans ce cas-là. Bien sûr, parce que alors, sur une ville comme Beson, la pression est plus importante parce qu'on est une ville connue pour avoir un taux de logement social de 40%. Donc forcément, c'est plus simple d'avoir un logement social à Beson que sur d'autres territoires qui ne respectent pas la loi SRU, etc., etc. Mais sur notre propre population, on a plus de 2 000 demandeurs de logement. Mais qui le sait aujourd'hui? Quasiment personne, et si vous ne communiquez pas dessus, vous le savez pas. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie problématique de prise en compte et de prise de conscience qu'il y a une problématique de difficulté de logement, y compris en Île-de-France. Moi, j'ai eu, si je devais vous parler de mon expérience, la première fois que j'avais été candidate à une élection, j'étais suppléante en 2007 d'un candidat qui avait fait du logement une thématique importante de sa campagne. Il était maire, il était candidat à une législative. Et moi-même, la première, j'avais 23 ans, 24 ans, et moi-même, la première, je me suis dit, pourquoi on parle du logement? C'est pas un sujet stratégique en termes de campagne électorale. J'avais cette naïveté de penser en me disant, mais il n'y a pas de problématique de logement. Et en fait, je me suis rendu compte que tous les militants, les acteurs politiques autour disaient, mais non. En fait, lui, il avait identifié une problématique sur le logement, tout simplement parce qu'il était maire, il connaissait les difficultés, etc., etc. Et on avait passé notre temps à faire campagne sur ce sujet-là auprès de la population qui, en fait, ne prenait pas elle-même, l'électeur n'avait pas conscience de sa difficulté. La deuxième chose, j'ai envie de vous dire aussi que la question des difficultés du logement, alors, c'est bien que vous faites le lien avec le pouvoir d'achat. Souvent, elle est cachée à travers le logement. Elle est cachée par d'autres sujets qui viennent faire une sorte de rideau entre le sujet du logement. Par exemple, la question du pouvoir d'achat. Mais en fait, elle est tellement liée sur le coût du logement est importante. La question des transports, la question des écoles, des équipements publics, etc. Donc souvent, on va aborder toutes ces questions-là périphériques qui sont des questions importantes. Mais on oublie finalement d'aborder la question du logement qui, en fait, elle est beaucoup plus centrale. Or, votre logement va déterminer votre temps de trajet et donc forcément votre coût de transport qui va diminuer votre pouvoir d'achat. Je vous donne une dernière anecdote et je m'arrêterai là. En ce moment, moi, par exemple, j'ai passé les deux derniers week-ends à regarder les réseaux sociaux sur ma ville. Et donc, j'ai deux clans qui s'affrontent. Les parents d'élèves qui en ont ras-le-bol que les parents viennent avec leur voiture déposer leur gamin. Oui. Et les parents avec la voiture qui disent, mais vous comprenez, moi, j'ai besoin de prendre ma voiture pour déposer mon gamin. Donc, derrière la question écologique qui est représentée, derrière la question des contraintes, en fait, ce qui est en difficulté, c'est comment, quand on crée du logement, comment on crée tout un maillage autour de la question des transports, le développement des transports, les développements des mobilités douces, etc., etc., pour simplifier la vie aux citoyens, pour qu'ils puissent justement déposer son gamin, peut-être en voiture, peut-être en vélo, pardon, peut-être à pied, si à un moment donné, on développe davantage les transports en commun et à partir du moment où le logement est pas loin. Enfin, le dernier point, c'est aussi la qualité du logement aujourd'hui. Moi, je me suis rendu compte à travers ma présence sur le terrain et à travers les campagnes électorales, on va faire du porte-à-porte. Eh ben, en fait, de l'extérieur, on voit des immeubles et on se rend pas compte des fois la misère qui peut se trouver derrière. Et ça, c'est un autre élément qui m'a frappé. Et souvent, on a du logement. À partir du moment où les gens, ils ont un toit, bien sûr, ils finissent par se plaindre en disant nous vivons dans de mauvaises conditions, etc., etc. Mais quand vous êtes à l'extérieur, vous vous baladez dans la rue, vous dites, les gens sont logés, donc il n'y a pas de problématique de logement. Or, les gens sont très, très mal logés. Et vous ne pouvez le savoir que si vous toquez chez eux et qu'ils vous ouvrent leur porte et vous voyez la misère. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a frappé. Mais qui peut le savoir? Vous n'allez pas frapper tous les jours à la porte de votre voisin, sauf le candidat assez fou qui va faire du porte-à-porte toute sa ville pour regarder un petit peu ce qui se passe chez lui. Donc voilà, je trouve que cette question, elle est cachée par plein d'autres sujets et on ne l'aborde pas directement.
C'est ce que font les maires, vous avez raison de le dire. Il y a eu des reportages récemment qui ont été très durs, très très durs, puisque ce que nous disait ce reportage, il y avait un reportage sur France 5, derrière ces façades où les gens vivent, en fait, il y a un désespoir social qui est presque au-dessous des radars même sociaux, avec des personnes qui ne disent pas ce qu'ils vivent parce qu'ils ont honte parfois. Et j'avais rencontré une assistante sociale qui me disait ils sont tellement descendus finalement dans leur état d'esprit, dans leur système de représentation sociale, qu'ils pensent qu'ils n'ont même plus droit à tout cela. Quelque part. C'est un vrai sujet. Et pourtant, de l'extérieur, vous avez raison de le dire, on a l'impression que les personnes sont bien logées. Damien Van Overschelde, qu'est-ce que ça vous évoque? J'ai vu que vous preniez pas mal de notes. Je sais que c'est un sujet qui vous touche particulièrement à cœur. Votre analyse?
Oui, la question, elle est double. C'est qu'est-ce qui est abordable? Je pense que ça évolue dans le temps. Un logement abordable, déjà. Et donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à moduler en fait, ça et à le faire évoluer dans le temps. Et puis ensuite, confortable. C'est la notion de confort aussi évolue dans le temps. Et on est aujourd'hui, les bailleurs sociaux, notamment en Île-de-France, hein, puisque 25% des logements sociaux de France sont en Île-de-France. Donc en Île-de-France notamment, on est confronté à un vieillissement du parc qui est assez important. Et donc des typologies de logements, c'est-à-dire des surfaces, des mètres carrés, des organisations intérieures au logement qui ne sont effectivement plus adaptées en fait du tout à la situation et aux besoins des familles, d'une part, et d'autre part, qui nécessitent de gros investissements de réhabilitation thermique avec les engagements sur le carbone, sur des objectifs ambitieux que porte la nation et qu'a repris la loi climat et résilience. Donc aujourd'hui, en fait, on est confronté à une problématique de financement du logement, globalement, par les ménages, et spécifiquement du logement social, par les ménages locataires du parc social. Je rappelle également que 70% des Français ont des revenus qui les rendent éligibles au logement social. Ça veut dire que la liste des demandeurs de Madame le maire de Beson, en fait, si on la dézoome, il y a 200 000 demandeurs de logements sociaux en Île-de-France et seulement 70 000 attributions par an. Donc on a vraiment un problème d'offre et de demande.
C'est terrifiant qu'on le constate. Je veux dire, quand on l'entend comme ça, on se dit, mais parce qu'il y a des familles derrière, il y a des enfants, alors, il y a des gens en précarité.
Tout le monde n'est pas logé.
Oui, hein. Oui, attention,
mais,
on est d'accord.
Mais dans des conditions qui ne sont effectivement pas décentes aujourd'hui.
Absolument.
Et avec un vieillissement du parc qui est terrifiant. Il nous faut une vraie politique différenciée. Alors c'est pour ça que moi je suis vraiment très attaché en fait au pouvoir du maire. Et je voudrais qu'on renforce le pouvoir du maire. Puisqu'en fait, la politique du logement, elle doit être territorialisée. C'est le maire qui rencontre ses administrés. Et de quoi il lui parle en premier? Du logement. Et ensuite, éventuellement de l'école. Mais c'est d'abord le logement qui est la première... Quand un maire fait des permanences, il a d'abord des demandeurs de logement qui toquent à sa porte, hein, qui le rencontrent. Donc il faut absolument qu'on arrive à redonner aux élus locaux, et aux maires en particulier, le pouvoir d'avoir une vraie politique de logement. C'est eux qui sont les médiateurs vis-à-vis en fait, de notre population pour rendre acceptables les projets. Donc moi, je leur fais confiance pour ça.
Vous êtes le patron de Haute-Seine Habitat, dans une région extrêmement dense, extrêmement dense. Ce que vous nous dites est frappé finalement du bon sens, puisque vous, ces situations, vous les vivez au quotidien, vos équipes les vivent au quotidien, toutes ces demandes. Ça doit être, je ne sais pas, je me mets à la place de vos collaborateurs, ça doit être terrible de voir venir des dossiers, de se dire « je ne peux rien faire ». Est-ce que vous avez parfois, Damien, franchement, ce sentiment presque d'impuissance?
Oui, on a le sentiment de pédaler un petit peu dans la semoule.
Oui.
Voilà.
Vous le dites différemment, mais si on vous donnait plus de moyens, vous feriez mieux, c'est clair.
C'est pas qu'une question de moyens. Il y a aussi une question en fait de relations, c'est-à-dire d'empathie, mais pas seulement technique. Et on a mis en place un projet d'entreprise au sein de Haute-Seine Habitat qui utilise. Un concept de symétrie des attentions, c'est-à-dire on veut renforcer en fait l'attention qu'on porte à nos collaborateurs pour qu'eux-mêmes soient mieux dans leur peau et soient plus à même d'accueillir bien le locataire social, puisque souvent et longtemps en fait, les locataires sociaux ont été considérés comme des bénéficiaires en fait d'un service, ils devaient se taire parce qu'ils avaient déjà bien la chance d'être logés.
Il faut
absolument changer ce regard.
Dans la relation.
Et donc la résignation dont vous faisiez, à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, concernant les conditions d'habitat, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que si on leur donne en fait le pouvoir de choisir leur logement, mais encore faut-il en avoir suffisamment, hein, on change vraiment le respect des lieux, on change, voilà, on redonne en fait du goût de vivre en fait à l'ensemble de ces personnes. Alors le problème du pouvoir d'achat, derrière ça, c'est quand même fondamental. Aujourd'hui, nous, on se bat pour réduire en fait les loyers, notamment à travers des dispositifs de financement, mais également pour maintenir les charges, les conditions de charge.
Oui.
Voilà.
Oui, parce que vous-même aussi, vous êtes soumis à cette règle de l'énergie qui augmente, et vous en êtes frappé aussi, bien évidemment. James Chéron, maire de Montereau, référent logement à la MIF et vice-président de la région, vous êtes en charge des lycées notamment. Bon, on a déjà parlé sur nos plateaux. Avec la particularité de votre commune, hein, qui est particulière, vous m'en aviez dit quelques mots, et c'est très juste. Comment vous analysez la situation? Elle est terrifiante, on est d'accord là-dessus. Le constat, aujourd'hui, il est vraiment terrifiant.
Ce qui est terrifiant, c'est de dresser le constat que cela fait bien de nombreuses années qu'il n'y a plus de stratégie et de politique publique d'envergure en matière de logement. Nous sommes maires. Quelles sont les préoccupations des habitants de nos communes? Quelles sont les préoccupations des Français? Un toit, un repas, un emploi. C'est le fondamental. Après vient l'éducation, la santé, qui sont évidemment des sujets importants, mais un toit, un repas, un emploi, c'est le fondamental qui vous permet de vivre décemment, de vous projeter dans l'avenir, de vous projeter aussi peut-être à travers vos enfants.
C'est une vision un peu maslonienne dans la pyramide de Maslow qui fait qu'on a besoin d'être en sécurité chez soi, avec de quoi manger et de quoi survivre et de quoi survivre.
C'est depuis que l'homme existe, n'importe quelle espèce animale a besoin d'être abrité quelque part, de se nourrir et pour ce qui est l'organisation de notre société, de travailler pour tout cela. Et aujourd'hui, il n'y a plus de grande politique de l'emploi. Je pense que le dernier grand ministre qui s'est occupé du logement, c'est certainement Jean-Louis Borloo. Ça nous ramène quand même à il y a un certain nombre d'années. Et depuis Jean-Louis Borloo, la dernière fois qu'il y a eu un grand ministère d'ailleurs du logement, vous évoquiez tout à l'heure dans votre introduction, est-ce qu'il ne faudrait pas un grand ministère, peut-être un ministère d'État consacré au logement? C'est le dernier grand ministre du logement. Et d'ailleurs aujourd'hui, on est encore sur ces politiques, sur ces décisions, sur l'ANRU, on en est à l'ANRU 2.
Enfin,
tout ça...
Le Grenelle de l'environnement.
Tout ça remonte quand même à une époque qui est presque déjà lointaine. Oui. Les plus anciens d'entre nous l'avons connu, l'avons partagé, l'avons co-construit. Mais cela fait 20 ans qu'il n'y a plus de grande politique du logement. Cela fait d'ailleurs 20 ans également que l'on n'a pas une étude sérieuse évaluant le besoin de construction de logements. 2002, la dernière grande étude qui dit qu'il faudrait construire 500 000 logements par an pour répondre aux besoins. Non seulement depuis 2002, il n'y a pas une seule année où on a construit 500 000 logements, et en plus la démographie dans notre pays fait qu'il faudrait certainement en construire un peu plus. En 2021, il y a eu un peu moins de 390 000 mises en chantier de logements. Et c'est pas la pire des années. Donc on voit bien que l'écart se creuse entre le besoin qui va grandissant et les mises en chantier. Cela signifie aujourd'hui qu'il n'y a pas suffisamment de logements, que lorsque Damien évoque le fait que 70% des ménages français pourraient prétendre à un logement social, même s'ils ne le font pas tous, ça pose plusieurs difficultés. Il n'y a pas suffisamment de logements, il n'y a pas suffisamment de logements sociaux. Et cela veut dire aussi que les foyers français qui n'ont pas de revenus suffisants sont trop nombreux. Ça n'est pas normal que 70% des familles en France, l'une des premières économies du monde, puissent prétendre à un logement social, c'est-à-dire soit considéré en suffisamment grande fragilité financière pour prétendre à un logement social. Ça veut dire que dans notre pays, on ne rémunère pas suffisamment le travail, que les ressources, les revenus des familles ne sont pas suffisantes. La Fondation de l'Abbé Pierre estime qu'il y a au moins 4 millions de mal logés. Et je dis au moins parce que, comme c'est évoqué il y a quelques instants, on est dans une société de l'image et beaucoup de personnes essayent de rendre facialement, publiquement, l'image que leur vie va bien, alors qu'au fond, derrière la façade, effectivement, leur vie ne va pas si bien. Et puisque le sujet, c'est celui du pouvoir d'achat, moi je crois que le travail ne paye pas suffisamment et que beaucoup de Françaises et de Français souhaiteraient, y compris être réhabilités dans leur dignité, et dire les efforts que je fais chaque jour en allant travailler me permettent de vivre correctement, d'accéder à un logement, de devenir propriétaire ou d'être locataire dans un système de mise en location normal, si tant est qu'il y ait suffisamment de logements, que ces logements soient décents. Et puis, je crois que les plus fragiles sont méprisés. On peut regarder encore récemment, quand le gouvernement décide de geler les tarifs réglementés de l'énergie, il ne parle que des tarifs réglementés, et comme vous le savez, les copropriétés, les logements sociaux sont exclus des tarifs réglementés puisqu'ils ne concernent que les contrats avec des particuliers. C'est-à-dire que les plus fragiles qui habitent dans les logements sociaux payent plein pot la hausse des prix de l'énergie. Et ça, le gouvernement ne s'en est pas occupé, et les plus pauvres de notre pays assument, subissent la hausse des prix de l'énergie. La hausse des prix de l'énergie, elle est conséquente quand même depuis un an. On voit que le prix du gaz, par exemple, ce qui nous sert à nous chauffer dans nos appartements, a considérablement augmenté. Eh bien, les locataires dans les logements sociaux subissent de plein fouet cette hausse parce que le gouvernement ne s'est pas saisi de ce sujet. Donc la question du pouvoir d'achat lié au logement, c'est l'accès au logement, l'accès à un logement accessible financièrement, mais également digne naturellement. Mais c'est aussi les moyens d'entretenir, de vivre dans son logement lorsqu'on arrive à y avoir accès. Et là encore, les Français sont, je crois, maltraités. En tout cas, les Français les plus fragiles sont maltraités. Alors, j'ai une marotte, et j'en ai déjà parlé ici sur vos plateaux, mais la vraie solution, ce serait d'avoir une politique d'aménagement du territoire à la hauteur de notre pays. Comment fait-on pour rendre concordant des calques qui sont ceux de l'emploi, des transports, de l'éducation, de la formation, de la santé et du logement. Il y a en Île-de-France beaucoup d'habitants qui habitent dans la région en subissant cet état de fait parce qu'ils n'ont pas le choix d'habiter autre part que là où ils peuvent trouver un emploi. Et au fond, nombreux de ces emplois n'ont rien à faire en Île-de-France. Et nous avons des territoires qui sont vides dans notre pays, avec des logements qui sont vides dans notre pays, et une politique d'aménagement du territoire, avec peut-être un ministère stratège, mais en s'appuyant sur le savoir, l'expertise des maires, ces élus des territoires. Moi, je suis un décentralisateur. On a aujourd'hui un gouvernement et un président qui sont ultra-centralisateurs. Moi, je suis un décentralisateur. Je pense qu'il faut faire confiance à celles et ceux en qui les habitants ont fait confiance, en leur confiant les clés de leur mairie. Eh bien, je crois qu'il faut réenvisager cette politique d'aménagement du territoire pour favoriser la construction de logements, la construction de zones économiques, là où nous avons des espaces, là où il y a de la qualité de vie, ce que recherchent d'ailleurs les habitants qui sont dans les métropoles de notre pays et qui, on l'a vu pendant la crise sanitaire, dès qu'ils le peuvent, s'enfuient des métropoles qui sont trop chères, trop polluées, trop bruyantes, on manque d'espaces verts pour aller dans des endroits dans notre magnifique pays où la qualité de vie est supérieure. Pour cela, il faut une politique d'aménagement du territoire ambitieuse, et je crois que cela fait bien longtemps qu'on n'en a pas dans notre pays.
Alors, ça a le mérite de bien poser les choses. Effectivement, je suis ravi parce que vous mettez le doigt sur quelque chose qui est essentiel. Pour compléter, je vais vous donner la parole à Olivier Bajard. Je voudrais qu'on reprenne justement les éléments de l'INSEE. Pour un couple sans enfant, on estime que la classe populaire est située entre 1600 euros et 2500 euros par mois. Pour une classe moyenne, pour un couple avec enfant, entre 2500 euros et 4500 euros par mois, on considère qu'entre 4600 euros et 6300 euros, on est ce qu'on appelle entre guillemets riche. Riche. Alors au-dessus de 6300 euros par mois, on est carrément. On est milliardaire. Bon. On connaît les prix parisiens. Vous avez une mission qui est pas simple quand on est à la tête d'Action Logement Service en Ile-de-France, que comme l'a rappelé James Chéron, un cinquième de la population française vit en Ile-de-France. Ces défis auxquels vous faites face au quotidien, à l'instar de ce que fait aussi Damien au quotidien, comment vous le percevez-vous ?
C'est effectivement, d'ailleurs, pour rebondir sur ce que disait Damien, il faut parler de logement abordable et plus de logement social, parce que aujourd'hui, y compris pour les classes moyennes, se loger devient extrêmement compliqué en Ile-de-France. C'est-à-dire, si vous êtes juste au-dessus de ce qui vous permet d'accéder au logement social et que vous êtes suffisamment éloigné de ce qui vous permet d'accéder au logement libre, vous êtes dans une situation en Ile-de-France qui est assez complexe. Alors, je vais revenir sur les chiffres que donnait Damien tout à l'heure, parce que j'ai pas tout à à fait les mêmes, mais ils sont pires, en fait. C'est surtout ça. Il y a 750 000 demandeurs de logement social en Île-de-France à fin 2020 pour 60 000 attributions locatives. Ça veut dire qu'il y a une offre pour 10 demandes. Voilà.
C'est
catastrophique, le terme que vous cherchez.
Je ne comprends pas, voyez-vous, c'est, je me permets un petit coup de gueule. C'est, on a vu descendre les gens dans la rue pour la hausse du carburant. Ça a été dramatique, tragique. Est-ce que, quelque part, on n'est pas en train de fabriquer une crise sociale, Olivier, qui fait qu'à un moment donné, on finira par précipiter les gens dans la rue à cause des problématiques du logement ?
Il y a deux moyens de voir les choses. Il y a deux manières de voir les choses, pardon. Celle qui consiste à faire le constat de la catastrophe et à refaire le constat de la catastrophe et à continuer de faire le constat de la catastrophe. Et puis il y a celle qui consiste à se mobiliser. Et aujourd'hui, ce qu'on voit avec la ORIF, ce qu'on voit avec les élus, ce qu'on voit avec Action Logement, aujourd'hui Action Logement, c'est un logement sur trois en France. Aujourd'hui, c'est entre 30 et 40% sur l'Île-de-France des agréments qui sont réalisés. C'est alors on parle en milliards d'euros souvent dans nos communications, mais je pense qu'il faut plutôt parler en personnes accompagnées. C'est en Île-de-France, c'est entre 20 et 30 000 personnes qui sont logées chaque année dans le contexte de leur évolution professionnelle. C'est des parcours résidentiels qui sont accompagnés. Sur la France entière, cette année, c'est plus de 700 000 personnes qui ont été soit aidées financièrement pour leur loyer, soit aidées financièrement pour des travaux, soit aidées financièrement pour l'accession. On parlait de pouvoir d'achat tout à l'heure, on parlait de logement. Qu'est-ce que c'est qu'un bon logement ? Un logement qui garantit le pouvoir d'achat, un logement qui est bien situé, c'est-à-dire à des endroits desservis, à des endroits où il y a des infrastructures d'éducation,
pas trop éloigné de l'emploi.
Pas trop éloigné de l'emploi, et quitte à dire d'ailleurs, et c'est un des sujets où je rejoins complètement Zem Seron sur le sujet, c'est il faut réfléchir à créer le plus possible de logements à côté des bassins d'emploi. Aujourd'hui, le plus grand bassin d'emploi européen, c'est nous, c'est l'Île-de-France. Oui. Et la proportion de logements par rapport à la proportion d'entreprises installées, le différentiel est très élevé. Donc l'enjeu, c'est vraiment de, un, créer du logement au plus près des besoins en termes d'emploi, mais aussi de réfléchir de plus en plus à repositionner l'emploi, comme vous le disiez, à l'endroit où il y a des logements. Et l'enjeu, justement, de l'acteur que nous sommes, c'est d'aller travailler sur la production de logements. Donc on finance évidemment la production de logements partout où c'est nécessaire pour les entreprises. C'est aussi d'aller réhabiliter, vous le disiez, la misère derrière les façades, il faut la combattre pour que des endroits qui ne sont plus habités ou qui sont fuis aujourd'hui se soient réappropriés. Je sais qu'on a quelques beaux projets, notamment à Montreux. Et puis, il y a cet enjeu qui consiste à faire en sorte de diversifier ce qu'on propose, du logement étudiant, du logement pour les alternants. Aujourd'hui, quand vous êtes un alternant et que vous voulez faire des études et vivre pas trop loin du monde de l'entreprise pour pouvoir garantir que votre expérience professionnelle et votre expérience éducation soient cohérentes, eh ben vous êtes en Île-de-France dans un certain nombre de cas. Et il faut que les logements qui permettent d'accueillir ces gens-là soient présents. Les logements pour les personnes âgées, les logements pour les étudiants, les logements pour tout un tas d'acteurs de notre vie sociale et de notre vie économique. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment, effectivement, de réhabiliter, de construire, d'accompagner les projets familiaux de la meilleure manière qui soit, et de faire en sorte que tout le monde trouve une place dans une société qui a tendance à privilégier, finalement, la gestion de l'urgence à la pensée sur le long terme. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire avec des programmes comme le renouvellement urbain, avec des programmes comme Action Cœur de Ville, avec des programmes qui visent à se réapproprier l'aménagement des environnements pour faire en sorte de pouvoir proposer un peu partout où c'est nécessaire sur le territoire des solutions diversifiées à tous les demandeurs. Mais c'est un travail évidemment extrêmement collégial, c'est pas un travail qu'on fait chacun dans notre coin, c'est un travail qui doit prendre en compte les préoccupations des élus, effectivement, les préoccupations des bailleurs, les préoccupations des entreprises, et donc on voit qu'on a de plus en plus ce besoin de réfléchir collectivement à la manière dont la société va évoluer pour apporter les réponses qui vont bien.
Alors, vous avez posé effectivement le décor, et on va merci encore une fois, puisqu'on va entrer vraiment dans le vif du sujet par rapport aux éléments. Une étude a démontré que le poste de dépense incontournable qu'est le logement est le plus fort marqueur d'inégalité. Ça, c'est un premier point. Et pour certains, il s'agit d'avoir un logement à tout prix. Vous l'avez dit, c'est les étudiants qui sont un peu la génération sacrifiée d'aujourd'hui. On a vu des situations dramatiques. Moi, j'ai eu dans ma carrière à créer une école d'enseignement supérieur et avec plus de 20 000 étudiants sur une vingtaine d'années, je peux vous dire que c'est un vrai sujet. Taudy, marchand de sommeil, crédit à rembourser qui pèse très très lourd avec des restes à vivre dans lesquels on a à peine un poste pour l'alimentation. Alors, ne parlons pas d'éducation, loisirs, bien évidemment. Pour d'autres, on a des problématiques différentes. C'est d'avoir des communs plus agréables, d'avoir une pièce de plus, une terrasse, un jardin, etc. Donc on voit une hétérogénéité dans la hiérarchie, en fait, des besoins de la shortlist, etc. C'est assez, philosophiquement et sociologiquement parlant, des différences qui sont assez drastiques et assez intéressantes. Par contre, on observe très rapidement, bien évidemment, je donne quelques chiffres pour bien un truc. 53% de l'offre de logement neuf est pourvu par des promoteurs privés pour le logement social. Ils pourvoient à 53% de l'offre parce que le constat est fait aujourd'hui que les bailleurs sociaux, malheureusement, construisent moins. Ils avaient construit dans le temps, on pourra en reparler, mais ils construisent moins. Et effectivement, sans le poste, on va dire, de ce qu'on appelle l'industrie privée, il y aura un souci. Vous avez tout à l'heure dit que 70% des ménages seraient éligibles aux conditions d'entrée dans le logement social. Or, quand on prend les personnes du parc privé locatif, qui finalement, quelque part, je ne vais pas dire supplée, je ne sais pas si le terme est approprié, mais quelque part remplit une fonction sociale dans la cité, eh bien, l'association Pluriance, qui regroupe les 13 plus gros groupes immobiliers français, estime que 62% des locataires du parc privé seraient éligibles au logement social. Et donc, en fait, ce n'est pas un problème de demande, c'est un vrai problème d'offre. Que l'on voit là-dessus. J'aimerais que vous réagissiez, si vous voulez bien, là-dessus, Damien.
Pour moi, c'est clair. Hein. L'idéal, ce serait qu'on n'ait plus besoin d'organismes de logements sociaux. Si tout le monde était logé et trouvait un logement dans le parc privé, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas opposer le développement de l'offre privée et l'offre sociale. Hein. Il ne faut pas se tromper. Au contraire, le développement de l'offre privée tire en avant la production de l'offre sociale. Et donc, pour moi, il faut trouver un logement abordable pour chacun. On a, pour les logements sociaux, aujourd'hui, une difficulté économique d'équilibrer nos opérations, puisque si on fait que du très social, donc avec des niveaux de loyer de 5 à 7 euros le mètre carré en Île-de-France, eh bien, on ne peut pas équilibrer économiquement notre opération. Donc, on est obligé de faire d'autres modes de financement, donc du moins social, donc des loyers à 13 euros le mètre carré, et puis éventuellement même de l'intermédiaire. Et oui. On déborde, en fait, du champ social pour pouvoir avoir à la fois...
On peut rappeler à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, ce que c'est que le logement intermédiaire.
Ce qui n'est pas du logement social, mais ce qui est inférieur au prix du marché.
Donc trop riche pour le logement social, clairement, oui, et pas assez pour rentrer dans le marché privé.
On est typiquement dans les Hauts-de-Seine à des prix à 16 ou 17 euros le mètre carré.
Ah oui, mais 80% des personnes peuvent accéder au logement intermédiaire.
Tout à fait. Voilà. Pour nous, en fait, je me prononçais en fait sur la production. Hein. Oui. On dit effectivement qu'il y a une chute de la production. Alors la chute de la production, elle est notamment liée... aux réformes qui ont eu lieu très récemment sur le logement social, et notamment la mise en place de la réduction de loyer de solidarité, qui ponctionne tous les ans, par exemple pour mon organisme, 6 à 7 millions d'euros sur nos recettes. Ça veut dire qu'il nous prive en fait de fonds propres qui nous permettraient de réinvestir dans le développement de l'offre. Et comme en plus du développement, on doit aussi assurer la réhabilitation et la rénovation du patrimoine, on a une équation aujourd'hui qui est insoluble, parce qu'on est ponctionné.
Ce sont des contraintes opposées, absolues.
En fait, c'est un prélèvement qui est fait sur les locataires sociaux. Hein, ce qu'il faut regarder.
C'est une décision du gouvernement, c'est une décision politique. C'est une décision du gouvernement qui fait supporter aux bailleurs sociaux le coût du...
Aux locataires sociaux.
Aux locataires, oui. Mais
oui, in fine.
Sur le budget, en tout cas, des bailleurs, avec des répercussions pour les locataires ou pour les aspirants locataires, une politique qui a consisté à diminuer les aides. Et comme le gouvernement n'a pas voulu l'assumer, évidemment, auprès des locataires, il dit on diminue les aides, mais en contrepartie, les bailleurs vont diminuer leur loyer. Et il n'y a pas de compensation. Donc, comme vous le dites très fortement, ce sont les bailleurs sociaux à qui on ampute leur capacité d'investissement, donc leur capacité à entretenir, à maintenir le patrimoine et à construire. Et aujourd'hui, effectivement, on peut faire le constat simple que les bailleurs sociaux construisent moins. Mais en fait, ils construisent moins parce qu'on leur a retiré les moyens de construire. Et les bailleurs sociaux voudraient construire. Les bailleurs sociaux déploient beaucoup d'énergie pour convaincre les maires, c'est pas toujours facile, de construire du logement social sur leur territoire. Quand les maires l'acceptent, il faut encore passer toutes les contraintes technico-administratives qui sont terribles, et puis il faut avoir les moyens de construire. Et on a retiré, 2018, on a retiré, le gouvernement a retiré aux bailleurs sociaux cette capacité d'investissement en faisant supporter effectivement la réduction des loyers. C'est souvent plusieurs millions d'euros, 7 à 8 millions pour Haute-Seine Habitat. Je suis le président de Confluence Habitat, qui est un petit bailleur en Seine-et-Marne, c'est 1 million d'euros à l'année. J'imagine que pour votre bailleur, c'est la même chose. Oui, c'est notre capacité d'investissement qui est amputée volontairement par une décision politique d'un gouvernement qui, au fond, méprise les bailleurs et notamment les petits bailleurs sociaux et ne cherche qu'à générer que des regroupements. C'est d'ailleurs ce que la loi Elan a organisé. Hein. Les bailleurs de proximité sont sous la contrainte de se regrouper dans des entités qui concentrent au moins 12 000 logements pour l'instant. Et l'hypercentralisation, qui est le moteur politique du président du gouvernement actuellement, se ressent aussi sur le logement social, où on déterritorialise la politique du logement social et où on enlève les moyens aux bailleurs, notamment aux petits bailleurs, d'investir pour construire et pour entretenir leur patrimoine. C'est une décision politique, je veux vraiment le dire, parce que ce n'est pas les bailleurs qui...
Absolument. C'est important parce que c'est politique.
Le gouvernement nous dit qu'il a redonné des moyens par l'intermédiaire de prêts et autres, mais en fait, les prêts, ils sont remboursés par les loyers des locataires.
Oui.
Donc, et puis quand on a un prêt supplémentaire, on dégrade encore notre autofinancement. Donc on dégrade encore notre capacité de réinvestir. Et donc on se retrouve avec des passoires thermiques qu'on ne peut pas réhabiliter, du patrimoine qui a un siècle. Donc les cités-jardins de la région parisienne, c'était des joyaux d'urbanisme.
Très juste.
Et qui sont magnifiques, mais qui sont des gouffres économiques. Et donc si on veut les réhabiliter thermiquement, eh ben, on a une difficulté. Moi j'ai des loyers par exemple à 3,20 € au mètre carré. 3,20 € au mètre carré, des bâtiments qui ont été construits dans les années 30. Et si je les réhabilite, je crée un gouffre, enfin un déficit chronique pendant les 25 ou 30 ans qui viennent.
C'est vrai que vos marges de manœuvre sont non seulement reniées à ce niveau-là, mais en plus, les systèmes de compensation ne fonctionnent pas. Je prends un exemple, simplement quand on a supprimé la taxe d'habitation. Le discours du gouvernement, James, on en a beaucoup parlé, c'était « on compense à l'euro près », ouais. C'était le discours.
Tout à fait.
Sauf que dans la réalité, quand on fait des calculs, et on a fait des calculs, on l'a fait avec Jean-Philippe Dugoin-Clément dans sa commune, on a comparé, on est sur des écarts très significatifs.
C'est à ce dit au moment où les fonctionnaires brillants de l'administration, mais c'est vrai, l'administration fiscale sont venus nous présenter dans nos mairies les modalités de calcul et nous garantir la pérennité d'un système de compensation absolue à l'euro près. Et puis quand on voit les montants tomber année après année maintenant, on se rend compte que, comme de façon globale pour les dotations d'ailleurs de l'État, les DGF diminuent. J'ai un maire à côté de Montereau, d'une petite commune. Il est allé rendre au préfet son chèque en considérant qu'il n'était pas là pour faire l'aumône et que la DGF de sa commune avait été tellement réduite qu'il n'en avait même plus besoin. C'était quelques milliers d'euros. Quitte à se passer de l'argent de l'État, il allait jusqu'au bout de la démarche.
C'est extraordinaire. Ça mérite un reportage. Nesrine Menawara.
C'est aussi privé un petit peu de capacité d'action aux maires qui vraiment en première ligne face à la gestion qui est discutée. Il lui reste pas grand chose et c'est là où on se retrouve, en tout cas moi à titre personnel je peux parler de ma ville, où à un moment donné c'est le serpent qui se mord la queue. Pourquoi ? Parce qu'on nous supprime une des taxes importantes pour agir. De l'autre côté, il y a une année de référence de remboursement avec une population constante. Sauf que moi par exemple, on est une des rares villes en Île-de-France qui a énormément construit. Donc moi, je vais avoir une augmentation de quasi plus 10 000 d'ici la fin de ce mandat-là de population. et je vais avoir une demande de service public, une pression beaucoup plus importante, mais je vais avoir un niveau de référence de compensation de la taxe d'habitation d'il y a quelques années maintenant. Et de l'autre côté, on nous demande de construire, d'accompagner justement pour répondre à cette urgence sociale sur la question du logement. Et en fait, à un moment donné, c'est un entonnoir et on ne peut plus agir. Et ça accentue en fait la difficulté. Donc ça devient compliqué et on n'a plus de moyens d'action. Il nous reste du coup la fiscalité uniquement sur la taxe foncière.
Oui.
La taxe foncière, du coup, elle est vécue sur un territoire comme celui-ci comme de façon injuste. Pourquoi ? Parce que si vous augmentez pour aller chercher un peu de marge de manœuvre, finalement, c'est qu'une partie de la population qui va la payer et pas 100%. Et à un moment donné, ça crée énormément de frustration.
Mais ça crée même un risque parce que la personne qui est propriétaire, qui dans les communes comme les nôtres sont minoritaires, la personne qui est prioritaire.
Des investissements ?
Oui, mais même les risques de départ. Et quand un propriétaire qui considère qu'on lui augmente sa taxe foncière, qui forcément est élevée dans les communes comme les nôtres, il considère que lui paye pour les autres, pardon d'être un peu dans la caricature, il y a un seuil de tolérance qui, lorsqu'on le dépasse, va pousser ce propriétaire à partir. Qui va venir, soit un promoteur immobilier qui va venir construire de façon un peu sauvage et déconnecter de la réalité du quartier, donc avec une acceptation sociale moindre, un projet immobilier, ou alors quelqu'un qui va investir dans cette maison pour couper en appartement, et puis on sait que dans 5 ans ou dans 10 ans, on est sur un habitat dégradé, voire sur un marchand de sommeil. Donc vous condamnez des territoires avec cette effectivement marge de manœuvre extrêmement réduite, vous condamnez des territoires soit à l'inaction si vous ne pouvez pas mobiliser votre ressource fiscale, soit à s'enfoncer dans la détresse, en tout cas à concentrer à nouveau des difficultés en incitant les personnes qui ont des ressources à partir parce qu'elles considèrent qu'elles sont trop taxées et en les remplaçant par des familles qui sont dans la difficulté.
Donc effectivement,
complètement d'accord et on aurait pu corriger le tir avec un système de péréquation. Le problème, c'est que les questions de péréquation, depuis des années qu'on en parle, on n'arrive jamais à tomber juste. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, quand vous rentrez dans des logiques très centralisées, vous êtes éloigné du territoire et vous perdez aussi dans la souplesse et la rapidité d'action. Donc ça aussi c'est très difficile. Un maire, s'il pouvait agir sur augmenter ou baisser sa taxe d'habitation, il peut l'augmenter pendant 2 ans en disant voilà, là il y a vraiment une urgence, il faut y répondre, mais je vous donne la perspective, dans 2 ans c'est fini.
On peut avoir
le débat de concertation, etc. Il y a un contexte où vous êtes dans la proximité, tout le monde participe à cette prise de décision et vous avancez. C'est pas fait de cette façon-là. Même chose moi sur mon territoire, par exemple, toutes les logiques politiques de la ville et en rue. Il y a une réforme qui a été faite, qui a certainement des éléments positifs, mais par exception, dans certains territoires comme le mien, il nous reste quasiment plus de quartiers politiques de la ville. Or, en réalité, on pourrait rentrer dans des logiques de quartiers politiques de la ville. Donc, en fait, on ne bénéficie pas du tout des aides où on passe complètement à côté. Et on a toujours les mêmes difficultés et il faut les gérer. De l'autre côté, par exemple, sur toujours cette logique de politique de la ville, est-ce qu'on y est, on n'y est pas? Si on dit il faut faire plus de mixité sociale, très bien, mais si on fait une politique de mixité sociale, on sort des ghettos, on sort des quartiers, vous sortez de tous les dispositifs d'aide. Or, ça ne veut pas dire pour autant que votre territoire va mieux. Vous continuez toujours à avoir les difficultés et donc ça repose toujours sur les mêmes. Et finalement, votre enveloppe au départ, même si elle n'a pas bougé, elle n'a pas augmenté, mais elle n'a pas bougé, mais en fait, si, elle a baissé. Contrairement à...
Alors, je voudrais qu'on donne quelques chiffres et je vais vous demander de réagir, Christophe et Olivier. Le prix réel des logements a presque doublé en 20 ans, sur les statistiques que nous avons. C'est-à-dire que le nombre de mètres carrés qu'un ménage est en mesure d'acquérir a diminué de plus de 13% selon les notaires. J'ai pris le barème des notaires qui permet d'enregistrer les actes et donc de mesurer les surfaces. Disparités entre les régions, on l'a évoqué tout à l'heure, elles sont extrêmement importantes. À budget équivalent, le nombre de mètres carrés peut varier du simple au septuple. C'est incroyable, c'est même assez éloquent. On a même des territoires dans lesquels le coût du mètre carré est inférieur au coût de la construction. Je prends par exemple une ville qui est à 53 minutes de Paris, Roubaix, qui est en pleine transformation. Comment imaginer que, montre en main, puisque nous avons un studio dans les anciens locaux que nous avons réaménagé, puisqu'on est très partant là-dessus dans le groupe, à Maï Imo, qui étaient les anciens locaux de la Redoute, qu'on a retransformé en cluster tech et proptech, avec le concours de promoteurs comme Nacaral, Réseau Procivis et autres, 25 000 mètres carrés, et j'ai halluciné de voir à quel point les bâtiments étaient contaminés les uns aux autres et se dégradaient de jour en jour avec des quartiers qui ressemblaient plutôt à des no man's land. Et ce qui m'a frappé le plus, c'est la proximité avec Paris. C'est-à-dire qu'en une heure, j'étais dans le centre de Paris. Je continue. Les chiffres à cette vitesse sont tellement marquants qu'on a l'impression, vu de l'extérieur, et d'ailleurs, ceux qui sont en Europe, les pays, je prends par exemple le cas de l'Allemagne, je prends le cas de l'Espagne ou de l'Italie, voient notre pays finalement comme étant un des plus mauvais élèves de l'aménagement du territoire. J'aimerais qu'on commente ces chiffres de façon très opérationnelle et faire circuler la parole là-dessus. Est-ce que le logement neuf, qui n'est pas épargné bien évidemment par l'augmentation générale des prix, avec la raréfaction de l'offre, problème d'offre, hein, pas de demande mais d'offre, prix des matières premières qui ont littéralement explosé, hein, je prends le cas du bois par exemple, ou certaines matières qui sont carrément introuvables, voilà. Et par ricochet, forcément, les conséquences, c'est les prix de sortie. On peut faire des miracles. Damien le rappelait tout à l'heure très justement. Comment je fais pour faire un miracle alors qu'à partir du moment où je n'arrive pas à le conclure, ça va être difficile. Je vais commencer par vous, Christophe, sur cette première analyse. Je sais que vous avez pas mal de chiffres pour nous.
Oui, oui. Alors, c'est toujours compliqué de comparer les prix de l'immobilier au niveau national parce que quand même, on a des grandes agglomérations et puis des petites villes. Donc, comparer des chiffres nationaux, c'est compliqué. Et parce que tout le monde sent bien que dans les grandes villes, les prix ont complètement explosé depuis 20 ans. Les prix à Paris, ils ont été multipliés par 4, mais il n'y a pas que Paris. Bordeaux, Lyon, tout le monde le sait, Lille, Nantes, Montpellier. Les prix ont été multipliés par 3 ou par 4. Chacun peut le sentir dans ses déplacements ou dans sa famille. Donc, toutes ces évolutions de prix, finalement, ont éloigné beaucoup de gens, beaucoup de ménages. Les ménages modestes, bien sûr, mais aussi les classes moyennes, c'est plein de gens, hein, les classes moyennes, c'est beaucoup de professions. Et ils les ont éloignés de l'espoir de finalement devenir propriétaire. C'est, voilà, ça fait partie du parcours classique des Français de vouloir être propriétaire. Et pour ceux qui habitent et qui travaillent dans les grandes métropoles, c'est sûr que c'est un sujet évident. Quand on n'a pas assez de logements, du coup, locatifs, qu'ils soient sociaux ou intermédiaires, puisque ça, on peut en parler à un moment donné, le fossé se creuse entre des jeunes qui arrivent, des jeunes étudiants qui arrivent, des familles, des personnes seules. Voilà, dans les grandes agglomérations, il y a beaucoup de personnes seules.
Une femme sur trois est seule avec des enfants, avec une demande de logement. Cette modification qui est sociologique et anthropologique, elle a fortement impacté la structure du logement. Ouais. Damien le rappelait, on ne peut plus vivre de la même façon la conception urbaine de la même.
Tout à fait. Le mode familial, finalement, il a changé. Hein. Il y a beaucoup d'éco-habitation. Donc, il faut déjà créer des logements pour les nouvelles familles qui arrivent sur le marché, les familles monoparentales.
Donc, celles qui se recomposent.
Elles payent, en gros, le plus lourd tribut, finalement, de l'évolution des prix de l'immobilier. On a presque envie de dire, puisqu'on a connu les uns et les autres des prix de l'immobilier il y a 10 ans ou il y a 20 ans, c'est qu'il y a quand même un clivage, finalement, intergénérationnel. Il y a des personnes qui ont pu devenir propriétaires il y a une vingtaine d'années, à des prix qui n'avaient rien à voir avec ceux d'aujourd'hui, et puis qui, finalement, aujourd'hui, puisqu'on l'a vu dans des études, un poids des dépenses de logement qui sont beaucoup moindres aujourd'hui, et puis les jeunes qui arrivent aujourd'hui et qui finalement subissent le prix aujourd'hui des loyers et des prix de l'immobilier. Donc ce qu'on avait tendance à penser il y a quelques années, c'est-à-dire les conditions des enfants s'améliorent par rapport aux conditions des parents. Donc ça c'est fait il y a 15 ans, il y a 20 ans, plus que ça. Mais aujourd'hui, ça a complètement changé, ça ne marche plus comme ça.
Olivier Bajan.
Oui, c'est un peu ça. Ça me donne très envie de réagir parce que c'est vraiment notre cœur de métier, notre cœur d'action. Effectivement, il y a une rareté du foncier, donc il y a effectivement, c'est plus difficile de construire, donc on construit plus cher, les matériaux, vous en avez parlé. L'enjeu d'un acteur comme Action Logement, typiquement, c'est de garder un aspect abordable au logement dans les environnements où ce logement est nécessaire. Alors, ça passe effectivement par la capacité à construire, la capacité à proposer des produits qui sont moins chers que les prix du marché. Je pense notamment à la production de logements intermédiaires que peuvent proposer des sociétés comme Inly, mais pas que, hein, qui sont 20% au-dessous du prix du marché libre et qui permettent à des gens qui...
Olivier, est-ce qu'on a une idée du volume total de ménages qu'on appellerait classe intermédiaire ou logement intermédiaire? Est-ce qu'on a des chiffres?
Je pense que Damien en a plus que moi. Ça, c'est vraiment remettre le singe sur l'épaule de quelqu'un d'autre. Hein. Mais Damien en a probablement plus que moi. La demande est ultra croissante. On a eu pratiquement 15 000 agréments cette année sur du logement intermédiaire. Il y prévoit d'en faire 80 000 d'ici 2030. Donc, on voit vraiment qu'il y a une demande extrêmement importante, en particulier sur la région Île-de-France, hein, où on voit que c'est un produit qui répond vraiment à des attentes de classe moyenne. On parlait tout à l'heure de pouvoir d'achat, il y a quand même un vrai sujet. Aujourd'hui, le parc existant, il y a des années, hein, il y a des époques de construction. On a construit beaucoup après les années 70 pour loger des gens qui vivaient dans des situations d'insalubrité. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est que ces logements qui existent et qui sont de piètre qualité, on les améliore. Je vois les bailleurs du groupe, des acteurs comme... Alors, je vais faire un peu de promo, mais des acteurs comme Séquence, comme 3F, comme Érigère sur l'Île-de-France, c'est des gens qui ont décidé d'avoir supprimé toutes les étiquettes F et G de leur logement d'ici 2020, que je vous dise pas de bêtises, j'avais noté là, ouais, d'ici fin 2023. Et on a déjà commencé à s'attaquer aux étiquettes, parce qu'on parle de pouvoir d'achat, on parlait tout à l'heure de logement abordable. Le logement abordable, c'est le logement qu'on construit à pas cher, et c'est le logement qui coûte pas cher à l'entretien, à l'usage, en fait. Hein. Et l'enjeu, il est vraiment là, il est vraiment, finalement, d'arriver, et c'est ce qu'on fait avec les bailleurs sociaux, c'est ce qu'on fait avec les membres de la ORIF, c'est ce qu'on fait au sein d'Action Logement. L'enjeu, c'est vraiment de produire du logement qui soit abordable pour tous, aux endroits où c'est intéressant pour tous, ça veut dire trouver de nouvelles manières de produire, trouver des manières de rendre le logement modulaire. Il y a plein d'expérimentations qui sont menées par des acteurs du groupe pour créer des logements modulaires. On vient de financer à travers des fonds innovation la construction de logements modulaires mobiles, c'est-à-dire se dire que un terrain qui n'est pas occupé à un moment donné, on peut l'occuper. Et puis, pendant 3-4 ans, et puis changer d'environnement ce logement-là. Alors, ça nécessite de réfléchir à la production hors site, ça nécessite de réfléchir à la modularité du bien. Mais c'est vraiment l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est d'utiliser, et on commence à y travailler notamment avec Damien et avec les acteurs du groupe, d'utiliser les mètres carrés qui ne sont pas utilisés. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont dans des logements plutôt grands parce qu'il y a eu des décohabitations. Comment on optimise ces mètres carrés-là ? Nous, on travaille avec des startups qui proposent de sourcer des jeunes qui sont prêts à aller habiter avec des personnes âgées. Je pense notamment, on est en train d'expérimenter ça avec 3F et Séquence sur l'Île-de-France et faire en sorte que...
Habitat intergénérationnel...
Cohabitation, ce que la loi Elan permet, ce que la loi Elan elle a bloqué certaines choses, mais elle en a permis d'autres. La cohabitation, aujourd'hui, c'est éligible à un certain nombre d'aides, c'est éligible à des financements particuliers. Rendre le logement abordable, c'est aussi sécuriser des acteurs qui ne pouvaient pas prétendre à un logement s'ils étaient tout seuls dans l'environnement. Aujourd'hui, nous, avec Visal, j'ai des chiffres aussi, mais je ne voudrais pas vous ennuyer avec les chiffres, mais on accompagne énormément d'acteurs à travers du cautionnement, à travers de la garantie du loyer, de la garantie des loyers impayés, et même à la remise en état, qui permet notamment à des propriétaires privés qui n'avaient pas envisagé de mettre leurs biens en location par peur des ennuis, de le faire et d'augmenter le potentiel d'accueil d'un territoire comme le nôtre où vraiment il faut faire feu de tout bois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible d'avoir des mètres carrés inoccupés en Île-de-France. On a commencé à travailler avec la foncière transformation immobilière qui est présidée par Alexandre Chirier sur la transformation de bureaux en logement avec des modèles économiques qui sont certes très atypiques, mais c'est ce que permet un acteur comme Action Logement justement d'avoir des modèles économiques un peu atypiques qui permettent d'envisager des choses sur des pas de temps qui ne sont pas la référence du métier pour pouvoir permettre d'aller travailler sur des parcs de bureaux qui ne sont pas utilisés aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de valeur et de les transformer, alors, en tout cas pas la même valeur qu'un parc d'habitation.
Merci Olivier, puisque vous mettez le point sur quelque chose qui est fondamental, qui est aujourd'hui cette idée que l'on peut transformer des bureaux en logements. D'accord. Il y a certaines sociétés qui se sont fait le spécialiste. Par exemple, la société Novaxia, qui a inauguré un des premiers immeubles de reconversion rue Planchat dans le 19e arrondissement. Si je devais vous demander quelle est la deuxième ville après Bombay au monde la plus dense, vous répondriez Paris. Paris est la ville la plus dense au monde après Bombay. C'est incroyable mais vrai, puisque souvent dans les statistiques, lorsqu'on prend le problème de la densité de Paris, il y a certains technocrates très intelligents qui intègrent le bois de Vincennes et le bois de Boulogne. Hein, ce qui fait que ça détend le principe de densité. Mais c'est vrai, c'est le cas. 15% des résidences principales en France sont des logements sociaux, soit un peu plus de 5 millions de logements. Alors, Vous avez des problématiques, les maires de France, que, pour être très clair, dans lesquelles il y a une espèce de... C'est presque schizophrénant même dans l'idée. Entre une politique structurante, vous l'avez clairement indiqué. Moi, je peux citer aussi un autre grand ministre du logement que j'ai beaucoup apprécié, c'est Pierre de Périssol, par exemple, ou Meignery, qui a été aussi, on s'entend, et à son époque, des ministres de grande qualité. Il faut leur rendre grâce aussi.
On est même dans le millénaire précédent.
Et oui.
Non, mais c'est ça qui est dramatique.
Et oui. Mais alors justement, j'aimerais qu'on passe, là j'ai gratté quelques minutes, pour justement, et encore une fois les amis, le pari qu'on a pris, qui est un pari éditorial, c'est de vous donner toutes les informations. Et je sais que ça vous passionne, car contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous écoutez en moyenne 27 minutes nos émissions par mois, alors que les rondes radio nationales, vous l'écoutez à peu près 3 minutes. Donc ce qui veut dire qu'au niveau de l'engagement, on sait que le logement, ça vous parle. Première chose. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut trouver des solutions. Alors moi, je vais vous dire, on va être très clair. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? James, alors, on a compris, vous n'êtes pas un fan du gouvernement actuel. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que vous attendez du quinquennat à venir sur le plan législatif ? Et je vais poser, si je peux me permettre cette question, à tous, et vous répondrez selon le périmètre qui vous est propre. En matière réglementaire, en matière structurelle, si demain, James Chéron, vous arrivez aux affaires et on vous dit, James, vous êtes ministre du logement, on fait quoi ? On commence par quoi ?
Alors déjà, il y a un grand scoop, je n'aspire pas à être ministre du logement. Je crois que j'ai beaucoup d'occupations avec la mairie de Montereau et mes missions à la région Île-de-France.
Mais vous êtes aussi référent logement de l'association qui regroupe le plus de population dans l'Île-de-France. Bon, voilà, c'est clair.
En termes de méthode, moi j'aimerais que le gouvernement puisse écouter un peu ce que les professionnels, les acteurs de terrain, les élus peuvent leur dire. Et déjà, ils auront fait un grand pas. Les élus savent ce qu'il faut faire. Je prends un exemple. Il faut construire des logements, mais il n'y a pas que des logements qu'il faut construire. En Île-de-France, en 2027, nous aurons 30 000 lycéens de plus qu'en 2017. Si la région Île-de-France avait fait comme les gouvernements successifs depuis un certain temps, on aurait regardé passer les trains. Et puis en 2027, on se serait dit, on va entasser les lycéens dans les lycées qui existent.
Voilà,
on construit 30 000 places. La région Île-de-France construit 30 000 places pour pouvoir accueillir les lycéens. Ça, c'est le pragmatisme des élus de terrain. On le fait dans nos communes. On regarde la natalité, on essaie d'avoir des chiffres à peu près fiables pour pouvoir accueillir les élèves dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires, sans avoir forcément les moyens de les construire. Mais c'est notre responsabilité. Eh bien, moi, j'attends du gouvernement qu'il prenne ses responsabilités. Premièrement, qu'on mette de la souplesse. Ça ne veut pas dire qu'on détruise l'arsenal, mais qu'on mette de la souplesse dans l'arsenal législatif et réglementaire pour permettre aux collectivités qui veulent construire sur leur territoire de pouvoir le faire. Ça ne veut pas dire que l'on... Mettre de l'intelligence dans la norme. Mettre de l'intelligence dans la norme. Deuxièmement, encourager enfin les maires bâtisseurs, à la fois dans les normes, bien évidemment, mais dans l'accompagnement financier qu'il faut pour aménager, c'est les aménageurs, pour construire, et puis pour permettre de rendre, comme disait Nesrine, pour permettre de rendre le service public qu'attendent et qu'attendront les nouveaux habitants des communes qui construisent. Il faut construire des écoles, des équipements sportifs, des équipements culturels, il faut mettre du transport, il faut nous aider à pouvoir avoir des médecins dans nos communes. On veut bien construire des logements. Et puis quand vous avez 1000, 2000, 5000, 10 000 habitants en plus, eh ben, il vous faut un ou deux ou quatre médecins en plus. Ils sont où les médecins ? Où sont les infirmiers, où sont les professionnels de santé ? Donc c'est vraiment cette vision d'ensemble qu'il faut construire, et puis un certain nombre de mesures extrêmement, extrêmement concrètes qu'il est possible de faire. Je pense que dans les zones les plus tendues, il faut encadrer, plafonner le prix du foncier. Le parti dans lequel je suis, avec l'UDI, avec la candidate que nous soutenons, Valérie Pécresse, nous voulons encourager, et vous l'avez évoqué, une France de propriétaires, parce que nous sommes dans un pays où les habitants aspirent à devenir propriétaires. C'est un fait culturel qui n'est pas forcément partagé dans d'autres sociétés, mais c'est le cas ici en France. Il faut pérenniser le prêt à taux zéro et le généraliser dans l'ensemble du territoire, notamment
dans les territoires. Est-ce que ça veut dire, James, pour être très clair, que vous seriez, à l'instar de ce que fait par exemple la Défense ou le ministère de l'Intérieur, une loi de programmation qui sanctuariserait une politique sur du long terme. Est-ce que vous y êtes favorable?
Ben peut-être qu'il le faut enfin. Mais ce n'est pas qu'en matière de logement. Il faut peut-être une loi de programmation en matière de logement, mais qui s'intègre dans une stratégie d'aménagement du territoire qui soit beaucoup plus ambitieuse. Il ne suffit pas de dire que dans la Creuse, on va construire des logements. Encore faut-il que autour de ces logements, il y ait, encore une fois, les infrastructures en matière de transport, d'éducation, de santé.
Quand le député François Pupponi dit qu'il faut une politique de peuplement, est-ce que ça, le terme, vous le trouvez approprié?
Oui, enfin, ça fait partie effectivement de ça dépend ce que l'on met derrière la politique de peuplement. Mais
on parle surtout d'équilibrage entre les territoires, parce que vous, tout à l'heure, vous l'avez dit. Il y a des inégalités territoriales qui sont assez frappantes.
Mais il le faut. Il le faut. Et c'est d'ailleurs, dans notre région, il y a des inégalités au sein même des territoires. Paris est un département qui perd des habitants parce que on a transformé des logements en bureaux. Et comme vous venez de le dire, il faut retransformer des bureaux en logements. Et puis les autres départements d'Île-de-France gagnent des habitants dans une proportion d'ailleurs qu'il est parfois difficile d'absorber pour les territoires. Et ce que nous faisons avec la région en construisant 30 000 places de lycée, eh bien, c'est exactement ce que les communes doivent faire. Donc voilà, il y a des mesures extrêmement concrètes. C'est sur le prêt à taux zéro. Il faut rétablir l'APL accession qui a été très largement supprimée.
Là, je vais entendre les applaudissements
par le gouvernement.
Dans quelques temps.
Oui,
APL accession, mais bien sûr. Mais bien sûr.
Mais oui, sauf que ça a été quasiment réduit à néant par le gouvernement actuel. Donc il faut y aller sur ce sujet. Enfin, nous, on est des maires bâtisseurs, je crois. On veut d'ailleurs générer une mixité. On ne veut pas construire du logement social. On est conscient qu'il faut du logement social, mais on a besoin de logements intermédiaires, on a besoin de logements collectifs avec des loyers libres, on a besoin que les gens puissent accéder à la propriété, on a besoin de logements individuels. Voilà, il faut construire 500 000 logements en France depuis 2002 et on ne le fait pas.
Alors c'est très intéressant ce que vous dites, James. Merci, parce que quand je prends par exemple la densité de la ville de Beson avec Nesrine Benawara, on peut dire de vous que vous êtes une maire bâtisseuse, construisez, mais dans le bon sens du terme. On peut en parler. Je voudrais vous demander de réagir aussi sur une tribune qui est sortie récemment. Oui. C'est le maire de Villemomble qui vient de refuser 636 logements dans sa commune, qui non seulement va plus loin dans la démarche, puisqu'il a carrément fait une tribune sur le sujet en disant il n'y aura pas de construction à Villemomble.
En fait, c'est là où il faut voir les situations au cas par cas, parce que d'un territoire à un autre, c'est compliqué. Nous, on est à 12 minutes, 13 minutes de la Défense en tram. Forcément, on devient un pôle d'attractivité très important. Il y a eu quelques erreurs qui ont été faites, malheureusement.
Vous êtes arrivé aux affaires il n'y a pas si longtemps, que vous avez trouvé une situation, on va dire... Bon, je ne vais pas faire mon journaliste, mais enfin, un peu singulière, on va dire.
Complètement, parce que nous, on a malheureusement, par le passé, eu des prises de décision avec des constructions énormissimes. Et ces constructions, aujourd'hui, on avait une taxe d'aménagement à 3%, comme je le rappelle souvent. Donc, c'est-à-dire qu'on a construit énormément, on a fait rentrer très peu d'argent dans les caisses, on n'a pas construit des équipements publics. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation catastrophique. S'ajoute à ça une baisse ou une suppression de la taxe d'habitation, ou en tout cas il n'y a pas de compensation au zéro près, enfin au euro près plutôt, mais on est au zéro près. Et on a une augmentation de la population avec une marge financière très petite. Je dirais même pire, parce qu'avec la crise du Covid, on a perdu aussi de la fiscalité sur les entreprises, parce qu'il y a eu forcément de la baisse des chiffres d'affaires de toutes les entreprises du territoire, donc forcément la baisse de la CFE, etc. etc. Donc moi, depuis le début du mandat, je perds à peu près 500 000 euros par an chaque année. Donc du coup, j'ai moins d'argent, j'ai plus de population et plus de services à produire. On a souvent, quand on a une installation de nouveaux habitants, il y a des comment on appelle ça, des je perds le terme, mais des dérogations, enfin au fait qu'ils ne payent pas leurs taxes foncières tout de suite, ou des exonérations, pardon, je cherchais le terme, des exonérations. Donc forcément, c'est une population qui va vous coûter plus cher au départ, le temps qu'elle commence à faire rentrer de l'argent, de la fiscalité, sur le territoire. Donc nous, on a une situation vraiment particulière qui fait que on est obligé d'avoir un développement intelligent. On aurait pu faire le même développement de façon beaucoup plus intelligente. On aurait pu tout à fait, effectivement, créer des équipements publics, créer des écoles. Moi, j'ai fait une étude scolaire qui me dit qu'entre 2020 et 2025, on va sortir 40 classes. J'ai zéro locaux disponibles et zéro euro pour les financer. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Il faut être ingénieux, trouver des solutions, etc., etc.
C'est clair.
Donc, bon, nous, sur Beson, vraiment, on a une situation où, justement, ils ont fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'après, il n'y a plus de marge de manœuvre pour dire, on va finalement construire, on va rénover, on va faire des choses, parce que les gens, ils en ont tellement marre que ça crée plus de désaccords et des
ordres. Mais est-ce que vous avez l'impression d'être un peu la commune parent pauvre de la région Île-de-France ?
On aimerait bien être davantage...
Vous avez compris que je fais allusion au projet du Grand Paris.
Complètement, complètement.
Au niveau de la mobilité, au niveau de la disponibilité. Et puis en plus, vous avez la particularité, pardonnez-moi, mais que Beson est encablé, si je peux dire, dans une zone dans le sud, dans l'ouest de Paris, qui n'est quand même pas une zone la plus pauvre, on va dire. Je pense des communes alentours.
Complètement.
J'allais même dire que Beson est plutôt, je prends par exemple l'axe du pont de Beson, plutôt stratégique d'ailleurs, d'un point de vue géographique. Quand je vous écoute, je suis, voilà...
Je pense qu'on va passer un mauvais moment, mais je fais confiance à mon équipe et mes services et à la population pour nous accompagner, pour faire les choses. Mais c'est sûr qu'on n'y arrivera pas seul. Il faut qu'on se fasse aider c'est par clair. La région, il faut qu'on se fasse aider par le département, il faut qu'on se fasse aider par l'État, etc. etc.
Mais vous attendez quoi, vous, du prochain gouvernement, de cette politique? C'est quoi, à l'instar de ce que nous dit James Chéron, je ne connais pas votre appartenance politique, vous pouvez me dire d'ailleurs quel candidat vous soutenez, est-ce que vous avez déjà offert votre parrainage?
Non, je ne l'ai pas fait, on m'appelle pour me le faire, pas plus tard ce matin.
Vous soutenez un candidat,
voilà. Non, moi j'ai fait le choix aujourd'hui vraiment de rester pleinement concentré sur mon territoire, parce que j'ai déjà beaucoup à faire, et vous voyez les sujets que je viens de vous dire,
alors,
c'est très honnêtement.
Au candidat,
voilà. Mais moi ce que je demanderais, en tout cas pour revenir sur votre première question, de dire demain quel type de ministère du logement il faut avoir. Moi, il faut sortir de la logique un peu, pardon de le dire comme ça, sociale, voire même misérabiliste parfois. C'est-à-dire qu'on aborde la question du logement que d'un point de vue social, de pauvreté, etc., etc., en disant, mais non, en fait, c'est des hommes et des femmes qui habitent, c'est des enfants qui habitent, votre aide-soignante, comme j'aime bien le dire, c'est votre infirmière, c'est votre enseignante qui débute dans la vie, qui est éligible au logement social, etc., etc. Et qu'il faut vraiment sortir du débat qui pollue un petit peu aujourd'hui la scène nationale. Je pense qu'il faut vraiment sortir de ça. Par contre, la question du logement, c'est la question plutôt, de façon plus large, de l'habitat. Et quand on parle de l'habitat, on parle d'un secteur économique. Et souvent, on l'oublie, c'est un secteur économique créateur d'emplois. C'est un des rares aujourd'hui sur le territoire. Et donc, il faut l'accompagner, il faut le soutenir. Il y a des besoins, donc c'est-à-dire qu'il y a des opportunités de marché. Il faut les accompagner, mais c'est-à-dire qu'il faut un ministère stratège. On parlait tout à l'heure des logiques d'aménagement, de comment on installe les emplois. On a eu une crise du Covid qui a impacté aussi ces logiques de déplacement sur les emplois, le développement du télétravail, etc., etc. Donc on peut peut-être aujourd'hui, c'est une opportunité pour peut-être envisager le développement du logement sur des territoires comme tout à l'heure vous parliez de Roubaix, c'est ça, ou d'autres territoires qui sont pas loin de l'Île-de-France. On gardera toujours la centralité, Île-de-France, Paris, donc, etc., etc., les métropoles. Ça, c'est la nature humaine, j'ai envie de dire, où il y a des pôles de centralité. Mais il faut recréer des pôles tout autour.
Une forme de polycentralité.
Voilà, une sorte de réseau territorial. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, le logement, ce n'est pas juste une logique sociale sur du logement social. Non, c'est une politique de stratégie de développement du territoire qui va de pair avec la stratégie du développement économique. Donc moi, je le mettrais plutôt dans un grand ministère qui serait une sorte de plan de relance de la France sur le plan économique, industriel, et du développement du territoire. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment donner une sorte de plan Marshall nouveau sur une logique de comment, à travers l'habitat, on restructure le territoire.
Ça me rappelle Jean-Louis Borloo, ça. Hein. Un plan Marshall. Intéressant. Damien, à votre niveau, qu'est-ce que vous attendriez, donc, de la politique du logement ou d'une structure politique? Vous l'avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure très clairement. Puis j'aimerais que vous nous disiez un mot aussi du mandat de président que vous avez à la Ouerif.
Oui, enfin, c'est vrai que pour moi, le logement, c'est indispensable. Hein, tout le monde en a besoin. Donc, c'est le foyer, effectivement, qui fait partie des besoins primaires, comme la sécurité. Sans logement, aujourd'hui, c'est difficile de garder la santé. Et c'est difficile de s'intégrer. Et c'est difficile aussi de faire éduquer ses enfants, etc. Donc, on est vraiment au cœur, en fait, de mon point de vue, de la reconstruction de la citoyenneté française. En tant que bailleur social, la première demande que je ferai au nouveau gouvernement, c'est de supprimer la réduction de loyer de solidarité, qui est aujourd'hui un vrai frein. C'est-à-dire que c'est comme si on avait un enfant et on le tenait en laisse pour lui donner la liberté. Bon. Ça n'a pas de sens point de vue, donc c'est le premier signe fort qui serait un signe de confiance. La deuxième chose, c'est effectivement, je rejoins monsieur le maire, c'est maîtriser le prix du foncier. Donc il faut qu'en Ile-de-France, il y ait un dispositif qui permette de maîtriser le prix du foncier pour que la rénovation, le renouvellement urbain plus exactement, se fasse de façon possible.
D'ailleurs, c'est-à-dire... c'est possible de maîtriser le prix du foncier. On peut, techniquement, vraiment.
On peut le faire. Il y a un système de préemption. Ensuite, il y a un système de France Domaine qui fait des estimations. Il y a un moyen, en fait, l'État a les moyens, globalement, de réguler le prix du foncier par la voie de la préemption. Hein. Et d'ailleurs, Haute-Seine Habitat préempte régulièrement, mais quand on préempte à Courbevoie...
Pour préempter, il faut avoir les moyens, hein. Et oui, mais... les bailleurs, les collectivités, on n'a pas des budgets extensibles qui nous permettent de prendre tâche à chaque fois qu'on le souhaiterait. Et on peut épuiser nos finances en assurant de la maîtrise foncière.
Tout à fait.
Il faut aller quand même plus loin sur une forme d'encadrement.
Tout à fait.
Pas loin des prix du marché.
Bien sûr.
C'est-à-dire si vous avez une augmentation des prix, ça n'aide pas toujours. Mais
l'offre qui a fait
augmenter. Je viens sur les autres dispositions parce qu'en fait tout ça c'est quand même cohérent. Donc moi je plaide aussi sur la différenciation. On voit bien qu'il y a du logement social qui est inoccupé dans certaines régions et qu'on en manque cruellement en Île-de-France.
Ouais, c'est fou.
Il y a des opérations de renouvellement urbain financées par l'ANRU 1 qu'on cherche aujourd'hui à démolir. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'habitants dans ces logements. Il y a des endroits, des villes de province où le prix du logement social... et équivalent, voire quelquefois même au-dessus du prix du marché. Ça existe. Donc ça n'a pas de sens de continuer à développer du logement social et donc de rendre obligatoire le développement d'une offre de logement social aux élus locaux sur ces sites-là. Ça n'a pas de sens. Hein. Même s'ils n'en ont pas les 25%, le problème n'est pas là. La question, c'est d'autoriser la différenciation, à mon avis, en fonction des territoires. Et donc, par contre, qu'il y ait un grand ministère qui donne des orientations... très bien, pour que toutes les régions puissent avoir une politique différenciée de construction de logements, y compris social, mais pas que. Hein. Ça me paraît important. Je rappelle quand même, mais je me méfie quand même de des tendances de l'État centralisées, très centralisées. Jacobin a de dire ce qu'il faut faire à tout le monde.
Bien sûr.
Et je rappelle aussi que notamment l'Île-de-France a été urbanisée avant 82 sous la responsabilité de l'État et qu'aujourd'hui les maires qu'on veut punir ou qu'on montre du doigt comme étant des mauvais élèves de la loi SRU ne font en fait que corriger, d'essayer de corriger les erreurs commises par l'État avant 82 puisque la plupart en fait de nos communes ont été urbanisées avant 82. Donc ça c'est quand même quelque chose qui à mon avis qu'il faut garder en tête, il faut pas que ça soit l'État qui fasse l'aménagement mais qui permette à des collectivités
donc,
de faire l'aménagement.
Donc territorialisation.
Territorialisation,
et
différenciation.
Essayer de lutter contre cette tentation jacobine à tout vouloir centraliser qui est très français dans l'état d'esprit, vous plaidez beaucoup pour. Alors, et moi, aussi redorer, quelque part, les marges de manœuvre, les capacités réelles de l'élu local, c'est-à-dire du maire.
Alors, moi, je redonne les clés de l'aménagement au maire.
Bravo. Hein attention, préfecture, groupe, commune, regroupement.
Si vous me permettez, d'organisation aussi administrative, c'est-à-dire, bien sûr, si aujourd'hui on réfléchit, parce qu'on a un État très centralisateur, mais on peut avoir un État très déconcentré, on peut avoir un État décentralisé, on peut donner plus de pouvoir au préfet de département, au préfet de région. Donc, j'entends bien. Moi, ce serait vraiment dommage qu'on oppose local, national, alors qu'on est vraiment, il y a des politiques qu'on ne peut pas, la logique, la politique des transports ne peut pas se faire sans avoir une logique. Mais je pense qu'il faut vraiment le faire en main.
On est vraiment lié par le temps. Je voudrais que vous puissiez conclure.
Que la planification, en fait, soit faite à un niveau supracommunal, ça ne me pose pas de souci. Donc, que ça soit régional, que ça soit des métropoles et le cas échéant, même si la notion de métropole à l'échelon de l'Île-de-France n'a pas de sens parce qu'elle est beaucoup trop grosse en fait. Elle n'a pas, aujourd'hui trouvé vraiment toute sa place et notamment les établissements publics territoriaux en fait sont aux mains des élus locaux et donc en fait en plus ça couvre pas toute l'Île-de-France donc il y a une problématique dans mon point de vue. Donc moi je redonnerai la priorité de l'aménagement au maire. Si le maire veut reconfier à une structure intercommunale, pas de souci. Mais en tout cas. A priori, c'est lui qui doit en avoir compétence parce que c'est lui qui sait. Alors, il faut aussi raccourcir les délais d'instruction de l'ensemble de ces permis d'aménager puisque ça freine considérablement la production. privé ou, ouais. ou social.
Non, mais d'où d'ailleurs, Damien, la temporalité qui est très différente du mandat politique par rapport à ça. Un petit mot sur la ORIF, si vous
voulez bien. Ensuite, il y a plusieurs autres enjeux, c'est l'accession sociale. Je pense qu'il faut effectivement retrouver les moyens de faire de l'accession sociale...
À la propriété.
Dans le neuf, à la propriété. Dans le neuf prioritairement, parce qu'on ne veut pas avoir ce que fait la ORIF aujourd'hui, à intervenir sur des copropriétés dégradées très bien importantes. Sûr. On le fait avec Action Logement aussi, hein, que ce soit à Grigny ou à... Ou à Clichy, voilà. Donc des grosses copropriétés qui nécessitent au fait l'intervention publique parce que elles sont trop dégradées et les copropriétaires ne peuvent pas s'en sortir. Donc il faut faire attention à ce que l'accession sociale n'entraîne pas en fait
un facteur de dégradation finalement.
Un facteur de dégradation.
Donc ça c'est très juste.
Ça s'accompagne l'accession.
C'est très juste.
Mais c'est vrai que l'accession sociale, bon, j'ai la chance d'avoir un parcours ascendant et mes parents ont eu, je l'ai dit à Olivier déjà, ont eu la chance d'accéder à la propriété grâce à des prêts d'Action Logement dans les années 70. C'est un modèle qui fonctionne.
Ouais, c'est un modèle très vertueux.
Ça continue. Enfin, j'ai envie de dire, parce qu'on parlait tout à l'heure de la capacité à produire. Aujourd'hui, nous, on a développé un outil qui s'appelle l'ONV, qui permet justement aux bailleurs de vendre une partie de leur parc en bloc avec une gestion qui entraîne l'accession sociale sur l'existant pour les demandeurs et qui permet de reconstituer des fonds propres dans un contexte un peu tendu pour produire plus sur le territoire. Mais pour répondre à votre question sur...
La conclusion que vous voulez apporter justement à ce débat, ce qui va être l'heure de
nous... Stramisme divergent heureux. C'est un thème de Christian Monjou que j'aime bien. Le strabisme divergent heureux, c'est la capacité à penser à très long terme tout en regardant ce qu'il faut régler en urgence. Et je dirais qu'un des enjeux pour moi des pouvoirs publics, c'est de travailler ce strabisme divergent heureux en s'appuyant à chaque niveau de décision sur celui qui connaît le besoin et celui qui sait y apporter la réponse la plus pertinente en proximité. Et justement, on a questionné souvent l'existence d'Action Logement ces dernières années. Moi, je trouve la force du paritarisme, c'est ça, c'est la capacité à répondre rapidement ou avec une vision de très long terme et concertée entre les salariés et les employeurs à ces problématiques-là. Je vais donner un exemple tout bête. On parle de pouvoir d'achat. On est rentré dans le Covid, il a fallu 6 semaines à la gouvernance d'Action Logement pour créer une aide Covid qui a permis d'accompagner 110 000 personnes dans la foulée et d'éviter des aggravations de situation d'impayés de loyer, d'éviter à des gens qui venaient de vivre pour des raisons de chômage technique une perte d'une partie de leurs revenus, de se retrouver en difficulté sur leur logement. Et les maires ont des solutions, le CCAS, le département a des solutions avec le fonds de solidarité logement pour accompagner les ménages qui ont des difficultés. Et en fait, c'est la complémentarité de tous ces dispositifs qui permettent d'apporter la bonne réponse. Et le strabisme divergent heureux, c'est ça. C'est de se dire qu'il n'y a pas une réponse centrale.
Vous attendez quoi du prochain gouvernement ?
De permettre au territoire d'être résilient en mettant les responsabilités au bon endroit à chaque fois.
L'homme de la punchline, c'est Olivier Bajard. Strabisme divergent heureux. J'ai appris quelque chose extraordinaire. On va le prendre en relais. Le mot de conclusion pour vous, Christophe Blintz, directeur des partenariats institutionnels chez Alila.
Écoutez, je vais essayer de résumer ça parce que finalement, on s'est tous dit le chemin, c'est quand même de construire plus, quoi. C'est-à-dire construire où il y a des emplois, où il y a des transports, construire à la fois du logement social. Construire pour les classes moyennes, il faut quand même rappeler, puisqu'on ne l'a pas dit, c'est l'image du logement social, il a largement changé, évolué ces dernières années. Voilà, le logement social, c'est un logement de grande qualité, il n'a rien à envier au logement privé. Les surfaces sont d'ailleurs souvent plus grandes que le logement qui se fait en accession. Donc cette image-là, elle a largement changé. Et le mot social, c'est pas le logement qui est social, c'est... les occupants qui ont des revenus modestes. Le logement, ça reste un logement de qualité. Et les classes moyennes, elles ont besoin de se loger. C'est des professions, les infirmières, des professeurs, c'est tous les travailleurs clés du monde de la santé, du monde de l'enseignement, du monde de la sécurité et des transports qu'il faut loger dans nos villes aujourd'hui. Et il faut aussi faire accepter le principe de la densité pour... éviter un certain étalement urbain et éviter aux gens d'aller trop loin. Pour ça, il faut des acteurs engagés. Voilà, nous, on est engagés auprès des collectivités, auprès des bailleurs sociaux. On souhaite évidemment un ministre du logement voilà, engagé sur ces thèmes. Et moi, je vais reprendre un peu la formule qu'avait pris Hervé Le Gros. Il faut que le logement soit considéré comme un produit de première nécessité. Vous aviez dit, voilà, c'est un besoin primaire. Donc le logement doit être considéré comme ça et qu'il soit porté par une politique voilà, du gouvernement, mais aussi avec les élus. Il y a beaucoup d'élus qui sont des élus bâtisseurs. On avait fait il y a quelques mois une étude auprès de maires qui avaient en grande majorité dit il y a une crise du logement en France. Et nous, on est favorable à la construction de logements à 90% et notamment dans des villes voilà, de plus de 10 000 habitants. Et ils considéraient aussi qu'il y a une insuffisance de logements sociaux, parce que le logement social, son image, il a largement évolué ces dernières années. Donc on voit bien que c'est aussi un enjeu prioritaire pour les maires de construire, simplement. Voilà, il faut aussi aider les maires à réaliser l'ensemble des infrastructures pour pouvoir demain augmenter le nombre de logements accessibles pour les ménages modestes, les jeunes, les étudiants.
Et surtout, bien sûr, pour loger et bien loger les Français.
Et voilà, et pour bien loger les Français.
Merci beaucoup, Christophe Blid. Voilà, c'est la fin de cette émission. On a débordé, mais je vous rassure, cette émission sera découpée. Et vous pourrez, bien sûr, prendre les moments qui vous intéressent. Et vous pouvez, bien évidemment, l'écouter en grande qualité. Vous avez aussi la plateforme de Radio Immo où vous avez le podcast qui sera disponible, bien évidemment. On vous informera tout cela sur les réseaux sociaux. Likez, commentez et on sera ravis aussi de vous répondre. Voilà, je voudrais remercier très, très chaleureusement Nesrine Menawara d'avoir participé à cette émission. Maire de Beson, présidente d'AB Habitat, surtout Nesrine, comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, ne changez rien, s'il vous plaît. C'est toujours un grand plaisir, j'apprends toujours beaucoup de choses avec sa présence sur le plateau. On est ravis de l'avoir reçu, Damien Van Oberschel, qui est le directeur général de Haute-Seine Habitat et président de la ORIF. Merci Damien.
Merci Sylvain.
Voilà, vous revenez quand vous voulez, il y a un rond de serviette à votre nom, voilà, pour nous éclairer de vos lumières, voilà, des professionnels qui ont à cœur de loger les Français. Un grand, grand merci à Olivier Bajard, l'homme de la punchline, direction d'Action Logement Service Île-de-France. Merci en tout cas. Bah vous, si ne changez rien, puisque c'est très agréable de vous avoir sur le plateau.
Merci.
Alors, il y a un maire aussi que j'apprécie tout particulièrement, bien évidemment, parce que j'aime beaucoup sa façon très directe de dire les choses, parce qu'avec James Chéron, au moins, on est sûr d'une chose, c'est que le décor est posé. Merci à vous, James Chéron. J'appelle que vous êtes le maire de Montreux, vice-président de la région Île-de-France, en charge notamment des lycées et référent de la commission logement à l'association des maires d'Île-de-France. Et j'en profite pour faire un clé d'œil à Stéphane Baudet. Merci, James. Vous êtes déjà venu dans nos studios. J'espère que vous nous ferez le plaisir de revenir et on sera ravis de vous y accueillir. La question du logement et du pouvoir d'achat, c'est quelque chose qu'on va développer. Bien évidemment, c'est le mot de la fin pour cette tribune. Et si tout le monde était bien logé avec notre partenaire Alila, c'est une collection que vous allez suivre régulièrement. On vous en informera. Likez, partagez bien évidemment. Et d'ici là, bah, prenez soin de vous. Merci à tous.
Et si tout le monde était bien logé, une émission en partenariat avec Alila, à réécouter et télécharger sur Radio Immo, Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming.